Bien, nous reprenons donc, comme je l'ai annoncé, la lecture dans Luc 14. Vous avez probablement remarqué, lors de nos lectures précédentes, que nous avons parcouru les versets 25, 26, 27 et 33. Aujourd'hui, nous allons lire les textes qu'il y a au milieu et après. Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, je suis au verset 28, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever ». Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Et enfin, en verset 34, le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà donc la lecture de ce jour, à laquelle nous allons nous arrêter pendant un moment, pour essayer d'en tirer profit. Il est question dans ces quelques versets de construire une tour, de livrer bataille ou d'exercer une influence. Tout cela en relation avec les versets qui précèdent, que nous avons vus un peu en détail ces semaines passées. Cela en rapport, en relation avec les exigences formulées par Jésus. Et, chose curieuse, nous constatons que ces trois entreprises, ces trois programmes, si j'ose dire, sont envisagés dans l'alternative d'un échec. Je ne sais si vous avez remarqué la chose. Commencer une construction et en arrêter le chantier. C'est un échec. Aller au combat et constater que on va à la défaite. C'est un échec. Ne valoir plus rien parce qu'on a perdu toute saveur. C'est aussi un échec. Alors, pourquoi ces passages? Que fait le Seigneur dans cette histoire? Nous n'avons pas l'habitude de ce genre de langage. Eh bien, aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Construire une tour. Livrer bataille, perdre sa saveur, sont des choses qu'il faut analyser avant qu'elles n'arrivent. Qu'il faut regarder de près, pour lesquels il vaut la peine de s'asseoir et de réfléchir. Cela est en rapport avec si quelqu'un veut venir à moi, s'il ne renonce à son père, à sa mère, à ses frères, à ses sœurs, à lui-même. Il ne peut être mon disciple. S'il ne porte pas sa croix, il ne peut pas être mon disciple. S'il ne renonce pas à tout, il ne peut pas être mon disciple. Jésus s'adresse donc à cette masse d'individus, on peut dire à cette foule de personnes qui sont là autour de lui et à qui il dit « Attention mes amis, prenez-vous la peine de vous asseoir et de réfléchir. » En fait, Jésus va leur dire « Arrêtez les frais. Si vous n'êtes pas prêts à assumer ce que je vous demande, Arrêtez les frais. Il vaut mieux pour vous. On est surpris, c'est pas souvent que Jésus fait cela. Construire une tour. C'est là, vous en conviendrez avec moi, une entreprise d'envergure. Il ne s'agit pas d'une cabane de jardin. Il s'agit de quelque chose, d'un édifice d'importance, d'un édifice appelé à frapper les regards, comme les vôtres sont frappés lorsque vous circulez et que vous voyez une bâtisse avec des tours qui dominent et qui surplombent la plaine ou que sais-je, tout dépend où ça se trouve, mais c'est quelque chose d'importance. Il est élémentaire d'en faire une estimation du coût avant de savoir si l'on peut s'élancer ou pas dans la construction. Coût financier et engagement dans le temps. Car si vous êtes pressé d'habiter votre tour et que vous n'avez pas le temps, adressez-vous aux maisons Phoenix. Ça ira beaucoup plus vite. Et vous serez sûr d'avoir un toit au-dessus de la tête. Pas forcément pour longtemps, mais enfin dans l'immédiat, vous serez à l'abri. L'engagement à la suite de Jésus a un prix. Il a un prix du début à la fin. Ce n'est pas quelque chose dont on va s'acquitter le premier jour et être tranquille jusqu'à la fin de ses jours. Ce prix qui se manifeste par la mort à soi-même est quelque chose que l'on expérimente jour après jour, minute après minute, sans arrêt, jusqu'au terme du voyage. Le prix à payer est fort. Jésus le dit. Ce n'est rien moins que notre vie. Donc, un engagement de longue date qui ne se limite pas, semble-t-il dire, à ces gens qui viennent à la pose d'une pierre inaugurale. Là, il y a les fanfares et les flonflons, mais ça ne dure qu'un petit moment, cette fête qui marque le début d'une construction importante. Jésus va beaucoup plus loin que ce jour de la pierre inaugurale. S'asseoir et calculer le prix, c'est se poser et estimer, autant que faire se peut, ce que signifie l'appel de Jésus. Jésus veut que ces gens évitent à tout prix un enthousiasme sans suite qui plonge celui qui s'y livre dans le ridicule et l'abreuve de moquerie. C'est ce qui est écrit là. Celui qui commence et qui s'arrête va être l'objet de la risée de son entourage. C'est clair. Et Jésus dit bien à ces gens-là, si vous ne voulez pas être l'objet de la risée de votre environnement, arrêtez votre construction, ne la commencez même pas. C'est-à-dire, ne faites pas semblant de me suivre. Vous allez voir que dans la suite, les conséquences sont beaucoup plus graves que simplement la risée et la moquerie. Jésus semble ici, pardon, non, il ne semble pas, il le fait. Jésus décourage ceux qui ne veulent pas répondre à ses demandes. C'est pas souvent, hein. Mais rappelez-vous qu'il n'a pas retenu le jeune homme riche qui s'en allait. Pourtant, il l'aimait. Jésus dit, Jésus l'aima. Mais il n'a pas retenu. Le réalisme de Jésus a pour fin d'épargner ceux qui prétendaient vouloir le suivre et n'étaient pas prêts à payer le prix d'expériences pénibles, douloureuses. Jésus veut leur éviter des souffrances inutiles. Livrer bataille. De quel conflit pourrait-il s'agir ici? Certains ont pensé que c'était une opposition entre l'homme et Dieu. Et Jésus semblerait vouloir dire à l'homme, est-ce que tu es prêt à l'affronter? Sinon, attention, fais la paix avec toi, avec lui, réconcilie-toi avec lui. À mon avis, ce n'est pas du tout de cela dont il s'agit. Pas du tout. Il va s'agir, à mon avis, d'autre chose. Le contexte semble assez clair. Suivre Jésus-Christ en répondant à son appel, en répondant à l'évangile, en acceptant cette bonne nouvelle du salut, avec les exigences qui l'accompagnent, que Jésus présente tout de suite, ne peut pas être une provocation de Dieu avec qui il va falloir se réconcilier. On est bien d'accord. Si je vais répondant à ce que Jésus me demande pour être réconcilié avec Dieu, si j'y adhère, ce n'est certainement pas pour être en bagarre, en lutte avec Dieu. Non, il s'agit d'une autre bagarre, d'une autre lutte. L'image illustre notre combat. Encore une fois, Jésus ici veut ménager ceux qui s'apprêtent à le confesser du bout des lèvres. Je dis bien du bout des lèvres. Le cœur n'y est pas. Ils sont entraînés par le contexte, par l'enthousiasme général, par cette apparente pour eux réalisation de la prophétie biblique. Voici le roi qui est venu. Voici le Messie. Voici le libérateur. Voici celui qui va mettre les Romains dehors et qui va créer le grand Israël de l'Égypte à l'Euphrate. C'est l'espérance, Israël. C'était ce qu'ils attendaient. Il ne s'agit pas de ça. Adhérer à ce type de Messie, ce n'est pas du tout ce que Jésus veut. Il ne faut pas que ces gens-là qui le suivent apparemment prennent une position semblable à la légère, car elle sera pour eux immanquablement source de problèmes, d'ennuis, comme s'ils s'étaient réellement engagés. Je dis bien réellement. On raconte l'histoire, c'est une histoire, d'un membre de l'armée sudiste américaine, vous savez, quand il y a eu la guerre de sécession, qui s'est retrouvé à un moment donné dans une situation où il avait perdu une partie de son uniforme, allez savoir pourquoi, et il avait bien le pantalon du sud, et voici qu'il récupère une vareuse, une casaque du nord. Et il l'endosse parce que le temps n'était pas tellement clément. Le principal était d'être à l'abri. Mais voilà qu'il s'est trouvé entre les deux lignes. Entre les lignes du sud et les lignes du nord. Alors les nordistes disaient « Tirez sur le pantalon !» Et les sudistes disaient « Tirez sur la casaque !» Était-il du nord, était-il du sud? Impossible de le savoir. De toute façon, on tire dessus. Bien sûr, c'est une histoire. Mais c'est une histoire qui est assez proche de la réalité. Celui qui va, à la légère, prendre le vêtement d'un disciple de Jésus-Christ, va, avec autant de légèreté, mais une inconscience plus grande encore que sa légèreté, provoquer un adversaire qu'il ne faut pas narguer. Celui qui n'est pas prêt à tout sacrifier pour Jésus-Christ, à suivre Jésus comme Jésus l'a dit, ferait mieux de ne pas faire semblant. Car il vaut mieux renoncer à l'enthousiasme du jour des rameaux que d'arriver aussi aux cris, aux vociférations du vendredi saint. Ce sont les mêmes personnes. Mais il vaut mieux suivre le conseil de Jésus. Si vous n'êtes pas prêt à endosser les suites possibles de votre engagement, arrêtez! Restez tranquille! Soyez, j'allais dire, religieux, sans plus, plutôt que d'être inconséquent. Car, à partir du moment où, d'une manière ou d'une autre, vous allez vous réclamer de moi, même si c'est pour la façade, alors, vous provoquez quelqu'un qui ne supporte absolument pas le nom de Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ, ceux qui lui emboîtent le pas. Et prenons l'exemple concret de cette période-là. Si vous n'êtes pas prêt à subir les outrages, les condamnations du Sanhédrin, car il s'agit bien de cela dans les circonstances, alors ne prétendez pas me suivre. Car si vous le faites, souvenez-vous que vous tombez sous ces foudres. Rappelez-vous l'histoire de l'aveugle né, dont les parents se débinèrent vite fait bien fait lorsqu'on leur posa la question « Est-ce bien votre fils? Est-il né aveugle? Comment se fait-il qu'il voit ?»« Ah, que ce soit notre fils, c'est sûr! Qu'il est né aveugle, c'est sûr !» Comment il voit ça, on n'en sait rien. Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Et le texte le précisait, ils répondirent ainsi parce qu'ils eurent peur. Ils avaient peur des Juifs qui avaient décidé d'exclure de la synagogue quiconque suivrait Jésus, le reconnaîtrait comme Messie. Ne faites pas semblant, mes amis, si vous n'êtes pas prêts à payer le prix. C'est ça que Jésus veut dire. C'est ça que Jésus veut dire. Ne narguez pas, ne provoquez pas un adversaire qui sera implacable si vous n'êtes pas prêt à payer le prix. Or, si effectivement vous n'êtes pas prêt à tout sacrifier, eh bien vous n'êtes pas prêt à payer le prix. Donc arrêtez! Allez plus loin, passez plus loin. Oubliez-moi. Je ne veux pas vous plonger dans des tourments que vous n'êtes pas en mesure de supporter. Un disciple de Jésus-Christ souffrant pour le nom de Jésus-Christ est déclaré bienheureux. Mais un non-disciple de Christ qui souffre comme un disciple, c'est un pauvre type. Un pauvre malheureux. Il n'a pas lieu de supporter ces choses-là puisqu'il n'est pas concerné. Et Jésus le dit bien ici. Faites la paix avec votre ennemi, celui qui ne veut pas, qui ne vous veut pas que du bien. Faites la paix avec lui. Exercer une influence. Où l'on parle ici des propriétés du sel. Le sel est une bonne chose. Là, nous le savons. Exhausteur de goût, rend les aliments plus savoureux, jusqu'à la délectation parfois. C'est aussi quelque chose qui était connu il y a bien longtemps. Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Disait Job dans ses plaintes, dans sa réponse à Bildad. Saviez-vous que c'est un révélateur de couleurs, le sel? Ben, je l'ai appris moi-même ces jours-ci. Le jambon, si rose et si appétissant, doit sa couleur à un excès de sel. S'il était normalement salé, il serait gris et pas appétissant du tout. C'est aussi un conservateur. Et cela est connu depuis des temps immémoriaux. Le sel en Israël est utilisé pour une signification particulière. Peut-être avez-vous lu, sans trop y prêter attention, en tout cas si vous avez la seconde, vous n'y avez pas prêté attention, vous ne pouviez pas y prêter attention parce que ce n'est pas écrit. Voici le texte raccourci de Nombre 18-19. Je vous donne, en vertu d'une loi perpétuelle, les offrandes saintes, Dieu parle au sacrificateur. C'est une alliance inviolable. La traduction de ceci, c'est une alliance de sel. Curieux, mais c'est une belle expression. C'est une alliance de sel, de la même manière que l'alliance faite par Dieu, qui donne à Israël David comme roi, selon 2 Chroniques 13:5, donne à David, se met à l'alliance avec David, ce même caractère. Une alliance de sel, il y a encore l'expression, que nous ne trouvons pas dans nos versions, qu'on ne trouve pratiquement pas dans aucune version, parce qu'on trouve en note, littéralement, alliance de sel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alliance impérissable. Alliance qui demeurera dans le temps. Voyez, cet élément conservateur va jusqu'à être utilisé pour parler de l'alliance que Dieu fait avec la famille de David. Je trouve que c'est fort intéressant dans le contexte du sel dont il est question dans le Nouveau Testament. Ceci étant rappelé, Jésus met en garde ses auditeurs, les mêmes que ceux qui sont tentés de commencer à construire sans pouvoir finir, les mêmes que ceux qui sont tentés d'aller à la bataille sans être du tout assurés de pouvoir vaincre. Ce sont les mêmes qui ici sont concernés par la perte de saveur. Le sel qui perd sa saveur. Alors, j'ai essayé de mieux comprendre cela et j'ai lu, comme d'habitude, j'ai flirté avec différentes versions. Et pour une fois, c'est assez rare, mais généralement je fais autrement, pour une fois, je n'ai pas pris mon Nouveau Testament en grec et j'ai fouiné d'une version à l'autre jusqu'à ce que je tombe sur la version de Chouraki. La version de Chouraki m'a fait dresser les antennes. Voici comment il traduit. Chez nous, il est dit, le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Vous connaissez tous cette version. Je vous donne maintenant la traduction littérale, donnée par M. Chouraki. Certes, bon est le sel. Mais si même le sel devient fou, avec quoi l'assaisonner ? Curieuse expression. Le sel qui devient fou. C'est l'expression que vous retrouverez. C'est le même verbe que vous retrouverez dans 1 Corinthiens 1:20, lorsque Dieu dit, que Paul écrit, Dieu a rendu folle la sagesse des hommes. C'est ce mot. Dans Romains 1, 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est le même verset, c'est le même verbe. Et c'est dans la version de la Tobe, au chapitre 5, verset 13 de Matthieu, que j'ai trouvé un mot qui m'a permis d'aller un peu plus loin. Car nous avons, nous, si le sel perd sa saveur. Dans la Tobe, il est dit, dans Matthieu 5, 13, si le sel devient fade. Je trouve que l'expression est plus intéressante que de perdre sa saveur. le sel devient fade. Alors, je me suis arrêté à ce mot de fade. Et j'ai cherché, j'ai pris mon dictionnaire étymologique et je suis allé voir ce qu'il en retournait. Et j'ai découvert, bien sûr, je l'ai découvert, que le mot fade vient du télescopage de deux mots latins, dont l'un signifie fa, F-A-T, pas la note, hein, fa, so, so. Et le deuxième vient de vapeur, éventé, pour finir par donner fade, sans goût. Alors, pour résumer les deux, nous pourrions parler de fadaise. Vous savez ce que c'est qu'une fadaise, que des fadaises? Ce sont des sottises. Et nous retrouvons alors le mot fade, qui est dans le texte, qui rend dans le texte le mot fou. Parce qu'effectivement, celui qui a perdu la saveur du sel, le sel qui a perdu sa saveur, n'a plus de goût, n'a plus, est devenu fade, il est sot, il est fou, celui qui est rendu à cet état. Ainsi est celui qui pour un temps essaye de s'imprégner de ce que Jésus donne, prend une certaine qualité de ce goût qui est le sien, va donner l'impression que lui aussi a du sel. Mais l'imitation ne reste pas longtemps, ne survit pas longtemps. Et voici que devient fou celui qui perd la saveur qu'il avait reçu. Et, chose précise, il se nuit à lui-même. Comme les autres qui sont ridiculisés, vaincus, ici, c'est celui qui se trouve dans cette situation de fadaise, de folie, de sottise, qui est jeté dehors. Il est le premier à faire les frais de son affadissement. Voilà donc une approche peut-être inhabituelle de ces quelques versets, je dis bien peut-être. Nous allons essayer de terminer sur une note un peu plus positive, un peu plus réjouissante. Les conseils que Jésus donne sont des conseils qui s'adressent aux tièdes. On a parlé de cela il n'y a pas très longtemps. Sont des conseils donnés à des personnes qui suivent sans suivre, qui écoutent sans recevoir, qui entendent sans mettre en pratique. Ils ont emboîté le pas aux autres, ils marchent comme des moutons de panurge. Jésus s'adresse à cela. Et Jésus ne veut pas leur causer, et cela le moins du monde, d'inutiles désagréments. Soit ils se réchauffent, soit ils s'éloignent et se refroidissent. Il vaut mieux pour eux. Plutôt que de rester dans ce no man's land de la tiédeur qui n'est bien ni d'un côté ni de l'autre. Ils doivent devenir zélés pour lui. Comme lui est devenu zélé pour la cause de son père, le zèle de ta maison me dévore. Je vous ai déjà fait allusion à ce mot. Me permettez-vous de rappeler qu'il vient d'un terme grec, zélos, qui a donné zèle, qui signifie proprement ébullition. C'est la rougeur, l'ardeur, la rougeur qui monte au visage. C'est l'expression d'un débordement, d'une cocotte sous pression. C'est cela que le Seigneur nous conseille. Il faut être prêt à bouillir pour lui. Aux autres, il dit, Ne vous exposez pas bêtement. De toute façon, ça ne vous intéresse pas, vous faites semblant. Donc autant que vous arrêtiez. Parce que ça va vous coûter très cher et vous n'aurez rien au bout. Excusez-moi de tenir ce langage. Mais je préfère vous le dire en toute simplicité et en toute sincérité. Alors voici la conclusion. La conclusion, je vais la chercher en celui qui donne ses conseils. En la personne de Jésus. Qui, en cette matière précise, et dans ces domaines-là, s'est assis et a calculé le prix. Il a calculé le prix d'une construction face à laquelle les travaux pharaoniques d'Égypte n'étaient que des jeux de cubes d'enfants. Il a entrepris la construction de l'Église. Cet ensemble d'individus arrachés au monde en perdition et voués à vivre quelque chose de lui au milieu des hommes. Entreprise extraordinaire. Il en a calculé le prix. Et sachant tout ce que cela représentait, il s'est mis en marche pour entamer, poursuivre et achever sa construction. Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Je la bâtirai et rien n'empêchera Jésus-Christ d'achever cette œuvre gigantesque. Le prix a été lourd, il l'a acquitté. Le temps se prolonge et lui maintient le chantier en œuvre. Et le fera aussi longtemps que cela sera nécessaire. Il a considéré son adversaire et il n'a pas hésité à l'affronter. Pourquoi ? Parce qu'il avait le pouvoir de le vaincre. Et j'aime l'expression, ici il est dit, s'il peut le vaincre. C'est s'il a la puissance de le vaincre. C'est le mot dynamos dont nous avons fait dynamite. Il a la puissance de le vaincre. Alors, tout était à gagner. Où tout était à perdre. C'était le prix de l'enjeu. Jésus l'a joué. Il est vrai que les apparences, au travers de toutes les vicissitudes qui ont marqué la vie de Jésus depuis les premiers jours de sa vie, et même avant qu'il n'ait commencé sa vie parmi les hommes, jusqu'au soir de la crucifixion, on a l'impression que l'accumulation est telle que tout est perdu. Et c'est au matin de Pâques, de la résurrection, que tout est gagné. Il faut attendre la fin du combat. J'ai vaincu. Satan est jeté dehors. Quel extraordinaire message que celui-là. Dans tout cela, dans la construction de la tour, dans la confrontation avec son adversaire, il n'a pas perdu sa saveur. Il reste encore le sel de la terre. Il a conservé ses qualités qui aujourd'hui encore donnent du goût et conservent ceux qui le suivent. Loin d'être éventé, l'évangile de Jésus-Christ conserve tout son parfum, malgré les âges. Aujourd'hui, on est à la mode des fragrances. Vous connaissez, diffuseurs de parfum, pour le bien-être des gens dans leur intérieur ou pour le bénéfice des commerçants qui attirent le chaland en leur faisant sentir les parfums de la pâtisserie ou ceux de ceci ou de cela. Et comme ils suivent leur nez, eh bien, ils vont à la caisse. Il y a longtemps que Jésus-Christ utilise ces diffuseurs de parfums, la fragrance. Vous êtes le parfum de Jésus-Christ dans la situation où vous êtes. Odeur de vie ou odeur de mort, selon que l'autre percevra ce à quoi il veut adhérer ou ce qu'il veut rejeter. Mais vous êtes ce parfum de Jésus-Christ. Jésus a gardé toute cette saveur et tout son parfum, et nous devons garder cette même saveur et ce même parfum si nous nous engageons avec lui. Voilà comment ce matin je voulais avec vous jeter un coup d'œil sur ce passage du Nouveau Testament. Que Dieu nous aide à être de ceux qui sont prêts à faire sauter le couvercle de la cocotte. Qu'il nous garde de devenir tiédas au point que l'on nous conseille la congélation. Dieu veuille que nous fassions le choix de marcher avec lui d'une façon déterminante pour construire, pour lutter, pour garder la saveur des disciples de Jésus-Christ, qui nous y aide par sa grâce. Amen.